On va tout de suite entrer, mesdames, messieurs, dans la data room. Votre hub de data. Chaque soir, juste avant la clôture, oui, nos experts vous apportent ces datas rares et précieuses qui vous permettent d'investir les mieux informés possibles. Louis et Daniel, êtes-vous prêts ?
Oui.
Oui.
Vous avez chacun une minute pour présenter une data forte. Pourquoi ceux qui nous suivent et qui aiment la bourse doivent avoir en tête cette data. Louis, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data du jour, c'est 40%.
Oui, Guillaume, en fait, 40%, c'est la quantité des puces vendues par les GPU vendues par Nvidia au quatrième trimestre qui ont été destinées à l'inférence. Alors, qu'est-ce que l'inférence ? En fait, quand vous entraînez un modèle fondationnel type ChatGPT, vous utilisez des GPU et ensuite, vous en utilisez quand on relâche le modèle dans la nature et que les gens font des demandes sur ChatGPT, ça s'appelle l'inférence. Et donc, pourquoi est-ce que cette data est importante ? Parce que ça veut dire qu'il y a une diffusion plus rapide qu'anticipée de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de capacités pour l'usage et non plus pour l'entraînement de l'IA générative. Et c'est soutenu aussi par les chiffres de Microsoft qui a annoncé 28% de croissance de sa division cloud, dont 6 points uniquement pour l'IA générative, et ça n'est pas de l'entraînement, c'est aussi de l'inférence. Donc on est vraiment dans une diffusion de l'IA générative dans le système. Et d'ailleurs, ServiceNow, qui est une société de logiciels qui a lancé sa fonctionnalité d'IA générative le trimestre dernier, donc c'est une société qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires, a annoncé le plus gros lancement de son histoire avec le lancement de cette fonctionnalité d'IA générative.
L'IA générative se diffuse, c'est ce que reflète, traduit ce chiffre. 40% des GPU vendus par Nvidia au dernier trimestre ont été pour l'IA générative. Nvidia qui n'est plus qu'à 300 milliards de dollars d'Apple en termes de capitalisation. Si Nvidia, dans le mois à venir, progresse autant qu'il a progressé sur le dernier mois et qu'Apple fait la même performance que sur le dernier mois, Nvidia doublera Apple en capitalisation d'ici fin avril.
Ouais, mais il faut garder à l'esprit une chose, c'est que Nvidia, son chiffre d'affaires, c'est les capex de ses clients. 4 clients représentent 50% de son chiffre d'affaires, il y en a un qui représente 19%. Alors, il y a une course aux armements en ce moment, je ne peux pas vous dire combien de temps elle va durer, ni quand elle va s'arrêter, mais il faut accepter le fait que c'est des capex, donc des investissements, et ce n'est pas des opex, c'est-à-dire du récurrent.
Ouais, enfin quand même. Attendez, si Nvidia double Apple, ce sera peut-être le cas d'ici fin avril, vous n'allez pas dire oui, mais bon, c'est pas pareil.
Non,
ce sera incroyable, ce sera incroyable.
Non, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas la même nature. Il n'y a pas nécessairement de repeat business, de renouvellement éternel. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous n'en achetez pas une chaque année, vous en achetez une de temps en temps. Bon, là, il y a des gros programmes d'investissement dans les.
Mais d'accord, mais Apple, qu'on a toujours décrit comme une valeur de croissance, n'est peut-être plus une valeur de croissance et est en train de devenir une valeur de consommation. Apple non plus n'est pas éternel dans son statut de valeur de croissance.
Mais le business de Nvidia quand même lié aussi à ces nombreuses acquisitions. Et chaque fois qu'il y a des acquisitions, ils obligent les sociétés qui ont été acquises à acheter des composants d'NVIDIA. Ça aide.
Jusqu'à ce qu'NVIDIA ait des concurrents de taille et de poids face à lui, on va attendre encore un tout petit peu. Vous avez mis la barre très haute quand même, Louis, sur cette data du jour. La pression est sur vous. Daniel, à votre tour, nous livrez une incroyable data. Votre chiffre, Daniel, 48%.
48-39-13. 48%, c'est la quote-part détenue par les Américains sur le marché actions. Vous voyez, c'est considérable. Alors, ils achètent des actions, mais pas qu'américaines. Ils achètent des actions internationales. Et si on regarde la détention des Américains sur leur propre marché, ils détiennent 39% du S&P. Les particuliers, les ménages américains. Wow. Pour faire une comparaison avec l'Europe, c'est 13%. Donc, vous voyez, la nature n'est pas du tout la même. Les Américains comptent sur le marché des actions pour leur retraite, pour leur pouvoir d'achat. Les Européens sont plus sur l'immobilier et sur les taux. Plus frileux, moins téméraire. Mais quand vous regardez la croissance des marchés boursiers depuis le début du siècle, enfin du siècle précédent, 1900, et vous regardez la croissance et les performances des marchés obligataires, il n'y a pas photo. Ils sont sur le bon segment. Il faut juste le gérer dans le temps. Et c'est une leçon que nous, on doit conserver et puis méditer. C'est que le placement action bien diversifié, c'est un placement long, mais c'est un placement qui est rentable. S'il est bien diversifié, ça permet de faire face au problème de retraite.
Les ménages américains détiennent 39% du marché actions américain.
C'est colossal. Voilà.
C'est trop colossal et c'est trois fois plus que la part des ménages européens vis-à-vis des marchés.
Exactement. Voilà.
Impressionnant, effectivement. Et cette data à forte valeur ajoutée que vous propose aussi Daniel. Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu de la data room. Ouais, souvent de pression, un petit peu de malaise à chaque fois dans la data room. Daniel Gerino est président de Carlton Selection. Louis de Montalembert de Pléiade AM. Merci, messieurs.